Radio Okapi.
À la présentation du journal, Daniel Tambizoni.
Bonjour à toutes et à tous, voici les titres de votre journal. Des personnalités de tous bords continuent de rencontrer le président Félix Tshisekedi dans le cadre des consultations au Palais de la Nation. Hier, deux cadres du FCC, Justin Bitakwira et Jean-Pierre Liaou, ont été reçus. Ils disent être consultés en tant que tels au bénéfice de la Nation. Vous les entendrez dans un instant dans ce journal. Le relâchement dans l'observance des gestes barrières est un danger dans les écoles de Kinshasa, dans une ville où le nombre de nouvelles contaminations passe de moins de 5 cas par jour à plus de 25. Le même relâchement est aussi constaté dans tous les milieux publics à Butembo. Le ministre d'État aux hydrocarbures, Rubens Mikindo, est l'invité de Radio Okapi ce matin. Il a lancé lundi à Goma les travaux de la deuxième phase du projet de l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu dans le bloc Goma en vue de la production de l'énergie électrique. Le gaz méthane qui constituait autrefois une menace est devenu une opportunité d'affaires, nous dira le ministre. Voilà pour les titres. Poursuite des consultations présidentielles hier, le chef de l'État a reçu Justin Bitakwira, le président du parti politique ARCL, le membre du FCC, dit avoir plaidé auprès du président de la République pour la paix dans l'Est de la RDC. Pour lui, les consultations en cours apporteront certainement des solutions aux problèmes de l'insécurité dans le pays. Je suis un général. En tant que tel, le FCC ne peut pas me réduire au rang d'un caporal, a-t-il déclaré au sortir de l'audience de mardi du Palais de la Nation en réponse à une question sur sa qualité de cadre du FCC. Justin Bitakwira au micro de Jeff Ngoy.
J'ai plus parlé de la paix à l'est du pays avec le président de la République. C'était la question essentielle que je dois contribuer efficacement pour ramener la paix à l'est. Et j'ai dit à ceux qui vont m'entendre, à tous les Congolais, et particulièrement à ceux qui sont en guerre, plus spécialement chez moi dans le sud du sud Kivu, et je tends la main à tout le monde, même aux Tutsis, on appelle Banyamulenge, je leur tends la main pour que la paix revienne et que la cohabitation soit comme elle a été avant les différentes guerres. Nous devons éviter l'extrémisme autour du président de la République. Ce pays ne pourra évoluer que dans le consensus. Et le président l'a dit, il n'y a pas crise, il y a plutôt un malaise. Et nous sommes sûrs qu'une solution viendra de ces consultations. J'ai été reçu comme personnalité et acteur politique congolais. Le FCC a ses structures pour se faire engager. Je n'engage pas le FCC. Bitakwira, c'est un général. Il ne peut jamais permettre à personne, à quiconque, du FCC ou pas, de me réduire au rang de caporal.
Une autre personnalité consultée hier, le député national Jean-Pierre Liaou, cadre du PPRD. Il dit être fier d'avoir été consulté en tant que tel pour l'intérêt général du pays. Il invite toute la classe politique à se joindre aux consultations et à soutenir l'union sacrée que veulent mettre en place le chef de l'État, car dit-il, il y a de la fumée sur la toiture de la maison. Il ne faut pas attendre que la maison s'embrase. Liaou était consulté avec Mboakiem et Kibasa en leur qualité des fils héritiers des pères fondateurs de l'UDPS. Écoutez, Jean-Pierre Liaou qui dit pourquoi il a répondu à l'invitation des consultations. Il est au micro de Jeff Ngoy.
Je m'adresse à tous les acteurs politiques, toute obédience confondue. Je dis tout simplement, regardez sur la toiture de la maison Congo, il y a de la fumée. N'attendez pas de voir du feu pour venir l'éteindre. Cherchez le foyer du feu là où il y en a déjà dans la maison, parce que la fumée indique déjà qu'il y a du feu, quelque part. Un petit foyer qui risque d'embraser la maison. Et donc, nous pensons qu'il faut du pragmatisme, qu'il faut que chacun puisse prendre au sérieux ce qui se passe dans le pays et agir en conséquence. Pour ceux qui vont certainement me poser la question de savoir pourquoi je suis là tant que député PPRD, parce que je sais beaucoup disent que moi je suis député du FCC, comment je me retrouve là. Je voudrais répondre tout simplement que je me sens très bien dans ma peau de patriote et d'homme libre. Il ne faut jamais, mes chers amis, s'excuser d'être républicain. Je considère que là où se discutent des problèmes des Congolais, les problèmes du Congo, là où se jouent les saluts de la nation, moi en tant que député national, je me dois d'être là.
Le président de la République a poursuivi jusque tard dans la soirée ses consultations avec plusieurs personnalités politiques, notamment Godefroy Mayobo, qui conduisait la délégation du Palou, le G13, le groupe de 13 personnalités, les parlementaires qui font leur plaidoyer pour des réformes du système électoral en RDC, ainsi que d'anciens dignitaires comme Chimbombo Mukuna, le professeur Lombeya et des alliés du CASH. Le parti politique Orange qualifie de distraction la position du Front commun pour le Congo qui ne veut négocier avec le président de la République que dans le cadre des accords signés entre les deux partis. Fiou Ndondomboli, président de ce parti, membre des forces politiques alliées de l'UDPS, appelle Félix-Antoine Tshisekedi à rester concentré sur des questions socio-économiques qui préoccupent la population congolaise. Il l'a dit hier mardi au cours d'un point de presse ici à Kinshasa. Écoutez Fiou Ndondomboli au micro de Paul Matendo.
Le président est une institution de la République et dans son rôle-là, il cherche des solutions pour l'intérêt de la République. Donc, il n'est pas question ici de se retrouver dans le cadre d'un certain accord parce que lui, sa fonction est au-dessus de ces accords-là. Donc, il a lancé la consultation dans le cadre de ses prérogatives et cette réaction, ces attitudes n'est qu'une distraction qui puisse éloigner un peu, vouloir l'éloigner des objectifs qu'il est en train de poursuivre. Le chef de l'État s'engage à régler les mécontentements de personnes qui ont le droit. Quelqu'un qui travaille, mais qu'on le paye pas décemment. Quelqu'un qui a envie d'aller faire des courses, il n'a pas de transport. C'est un droit pour lui d'avoir le moins de déplacements, de se soigner, de faire le reste. Le chef de l'État est concentré sur toutes les questions, ces genres de questions qui concernent la vie des citoyens et que la République a l'obligation, la responsabilité, le devoir d'honorer. Tout le reste, ce n'est qu'une distraction.
Le Canada est disposé à soutenir les acteurs politiques qui travaillent pour le changement souhaité par le peuple congolais, dont l'amélioration des conditions sociales, à la création des emplois, à la lutte contre l'impunité, surtout à l'avènement de l'état de droit. C'est ce qu'a affirmé mardi à Radio Kapi l'ambassadeur du Canada dans une interview d'au revoir puisqu'il est fin mandat. Nicolas Simard estime que la crise entre le FCC et le CASH est perceptible, qu'il faille consulter la classe politique pour un nouveau départ. L'ambassadeur du Canada dit que le gouvernement de son pays soutiendra tous les efforts du président Félix Tshisekedi à centrer son action sur les aspirations du peuple congolais. Nicolas Simard au micro de Michel Kifinangoï.
Le président Tshisekedi, lors de son discours d'assermentation en janvier 2019, il a pris des engagements auprès de la population. J'y étais tout juste à côté au Palais de la Nation. Il y avait une foule impressionnante et cette population est en attente aujourd'hui. On a encore ces querelles politiques qui portent en grande partie sur la préparation des prochaines élections en 2023, mais il y a un mandat qui est en cours. Et donc, la population s'attend à ce que les choses changent. Mais malheureusement, elles ne changent pas au rythme qu'elles le souhaiteraient parce qu'il y a un blocage qui est sensible dans la coalition actuelle. Sans prendre parti, bien sûr, mais je reconnais qu'il est tout à fait normal de vouloir trouver des mécanismes par lesquels sortir de l'impasse actuelle pour être en mesure de livrer les changements auxquels s'attend la population congolaise. Et je souhaite vivement que les leaders politiques de tous les côtés auront la maturité nécessaire pour s'entendre et pour pouvoir livrer un programme de changement qui donne des résultats concrets pour la population congolaise.
Parlons santé à présent. Les gestes barrières pour lutter contre le Covid-19, même les enfants les connaissent par cœur, même ceux qui ne vont pas encore à l'école. Mais qu'en est-il de leur respect actuellement dans les écoles de Kinshasa, maintenant que des cas sont passés de moins de 5 par jour à 15, voire 25 actuellement dans la ville de Kinshasa? Élément de réponse dans ce reportage de Babel Pongo Massimango.
Ces gestes étaient beaucoup plus respectés au début de l'année scolaire. Aujourd'hui, certaines respectent encore les règles, sauf la distanciation, mais dans d'autres, on n'observe pratiquement plus rien. Dans la majorité de celles où nous sommes passés, enseignants et élèves sont sans masque, mais tous connaissent des gestes barrières.
Je me lave fréquemment les mains avec du savon, je porte un cache-nez, et aussi je me promène toujours avec le désinfectant dans mon sac.
Maintenant, où est ton cache-nez?
Mon cache-nez, en fait, aujourd'hui, je ne l'ai pas amené, je l'ai oublié.
Les enfants, il n'y a pratiquement pas qui portent des masques.
Bon,
même vous-même aussi.
Oui, moi-même, je vraiment, Je me sens trop étouffé. Si je porte ça, les enfants ne m'écouteront pas. Au moins que j'ai un micro. Sinon, je respecte.
La distanciation, elle, n'existe plus. On s'est mis dans les salles comme avant le Covid-19. Pendant la récréation, on se regroupe, on se bouscule sans s'inquiéter. Ce qui reste visible, c'est plus les dispositifs de lavage des mains. Mais là aussi, c'est plus utilisé au moment de manger. Du côté des parents, on reconnaît une certaine négligence.
Avant, c'était avant d'entrer à l'école, même toi, parent, il faut que vous entrez avec du cache-nez, nettoyer les mains. Mais pour le moment, ce n'est pas obligatoire.
Pourtant, les risques de contamination existent toujours, préviennent les spécialistes en santé.
Et à Boutembo, dans le Nord Kivu, les mesures barrières contre le coronavirus se sont foulées aux pieds dans presque tous les milieux publics. C'est notamment dans les écoles et universités, dans les marchés, dans les services publics de l'État et même dans certaines formations médicales. Quelques observateurs pensent que ce relâchement est dû d'une part au manque de rigueur de l'autorité publique dans l'imposition de ces mesures, d'autre part par le fait que la majorité des habitants ne croient pas en l'existence de la maladie. Alicia Kapisa nous décrit la situation à Boutembo.
À l'entrée de certaines écoles visitées, on y trouve un grand dispositif de lavage des mains. Le port des cache-nez et la distanciation physique ne sont plus des rigueurs même dans les universités de la ville. Dans plusieurs structures sanitaires visitées, seul le lavage des mains est encore des rigueurs. Nous avons fait cette même observation dans certaines institutions et services publics de l'État. Le prélèvement des températures est devenu facultatif. Seulement quelques rares formations médicales de la ville, telles que l'hôpital général de Kitatumba, respectent encore toutes les mesures barrières. Le lavage des mains obligatoire, le prélèvement des températures et le port des cache-nez. La même observation est faite dans les institutions bancaires de la place. Rappelons que ce relâchement intervient pendant que le nombre de malades à COVID-19 augmente du jour au lendemain et la division provinciale de la santé antenne de Boutembo s'est dit confrontée à plusieurs difficultés pour la prise en charge des malades et même le prélèvement de nouveaux cas. Boutembo, Alicia Kapisa, Radio Okapi.
Le torchon brûle entre les deux autorités provinciales du Congo, Jean-Marie Petit-Petit, ainsi que le Paul Kangulumba, respectivement gouverneur et vice-gouverneur de province. Le gouverneur Petit-Petit, réhabilité après sa propre démission, accuse le vice-gouverneur qui a assumé son intérim pendant plus de 3 mois de ne pas reconnaître sa réhabilitation en tant que gouverneur sur décision du vice-premier ministre Gilbert Kankondé, ministre de l'Intérieur. Et pour sa part, le Paul Kangulumba dit n'avoir jamais été notifié de la décision réhabilitant son titulaire et pense qu'il est inconcevable de présenter le rapport de gestion des affaires courantes à un démissionnaire. Le récit des faits avec Irène Boma.
Dans une correspondance adressée au ministre provincial de l'Intérieur du Congo, lui confiant l'intérim durant sa mission officielle à Kinshasa, Jean-Marie Petit-Petit, gouverneur de province, accuse son vice de défier l'autorité du chef de l'État en refusant la décision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé, portant sa réhabilitation dans ses fonctions du gouverneur après sa démission. Il dénonce également les refus du gouverneur intérimaire de lui présenter des civilités ainsi que les rapports de gestion des affaires courantes qu'il a eu à assigner. Contacté à ce sujet, Léopold Kangulumba, vice-gouverneur du Congo, réagit en ces termes.
Il me dit de n'avoir pas respecté la décision du président. Est-ce que lui a une décision du président de la République? Ça, c'est de un. De deux, il est réhabilité par quel document? Un message que je n'ai pas jusqu'à présent, alors qu'en principe, on devrait me l'adresser. De trois, je devrais lui présenter des civilités en quelle qualité? C'est lui qui devrait venir me présenter les documents au bureau. De quatre, les rapports de gestion. Un démissionnaire, quelqu'un qui n'existait plus. Moi, je vais lui présenter les rapports. En quelle qualité?
Notez qu'étant humain, intérêt d'entente sera toujours trouvé, a indiqué Jean-Marie Petit-Petit qui prône la réconciliation. Il a dit dans un entretien avec nous ce mardi. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Incident hier mardi à l'Assemblée provinciale de l'Ituri. Les députés provinciaux élus du territoire de Mambasa ont quitté la salle de plénière et décident de sécher les activités jusqu'à nouvel ordre. C'est une réaction pour marquer leur désapprobation du gouvernement provincial remanié dans lequel leur territoire n'est pas représenté. Ces élus ont exprimé leur déception à travers une motion incidentielle lue au cours de la plénière même d'hier. Cette déclaration a provoqué un tollé à l'hémicycle de Bounia. La correspondance est signée Ezekiel Mouzalia.
Ces élus justifient leur position par la déchéance du ministre provincial de l'Environnement et Développement Durable dans un arrêté signé par le gouverneur il y a quelques jours. Pour le président du caucus des élus de Mambasa, cette façon de faire frise la discrimination par l'exécutif provincial dans la répartition équitable des postes. Omer Kaindo appelle par conséquent les élus de ces territoires à boycotter les activités parlementaires.
Suite à cette injustice et à cette méfiance du gouvernement provincial envers les territoires de Mambasa, nous ne pouvons pas continuer à siéger dans cette assemblée provinciale sous ce climat au milieu des scandales et paradoxes.
Contacté, le porte-parole du gouvernement provincial indique que cette question sera examinée par l'autorité provinciale à son retour de la mission de Kinshasa. Janvier Egoudra.
Je voudrais rassurer nos compatriotes du territoire de Mambasa que les effets inattendus de cet arrêté vont certainement être corrigés le plus rapidement possible.
Signalons que 30 députés provinciaux ont pris part à cette séance plénière publique à laquelle se sont joints également d'autres acteurs politiques présents à Bounia. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a affirmé mardi au chef de l'État français, Emmanuel Macron, qu'il souhaitait redynamiser les relations bilatérales et transatlantiques, notamment à travers l'OTAN et l'Union européenne, souvent malmenées par Donald Trump. Lors de leur premier échange téléphonique, les deux hommes ont évoqué leur future coopération sur la lutte contre la pandémie COVID-19 et la menace du changement climatique, ainsi que sur la sécurité et le développement en Afrique, selon un communiqué publié par l'équipe de transition du démocrate.
L'invité.
D'une menace à une opportunité, c'est ce que va offrir d'ici peu le gaz méthane du lac Kivu à la population congolaise. Le projet d'exploitation de ce gaz dans le bloc Goma en vue de la production de l'énergie électrique entre dans sa deuxième phase. Nous en parlons avec le ministre d'État aux hydrocarbures, ministre Rubens Mikindo, dans cet entretien accordé à Denis Lukeso.
Monsieur Rubens Mikindo, bonjour.
Bonjour.
Où en êtes-vous avec les projets d'exploitation du gaz méthane et du lac Kivu au bloc des Goma?
C'est un projet, bien entendu. Les blocs Goma avaient été attribués à EPPM. C'est un consortium composé de plus ou moins trois grandes sociétés. Aujourd'hui, nous sommes à la phase où il faut concrétiser ou alors passer à des choses sérieuses parce que ça a fait longtemps que ces projets ont traîné dans les tiroirs. Nous avons pensé qu'il était important et impérieux et urgent aussi pour que ce projet puisse passer à la phase finale, c'est-à-dire celle qui consiste l'exploitation du gaz et sa transformation en électricité. Et le comité de suivi, nous l'avons mis sur pied depuis le mois d'octobre passé ici. Aujourd'hui, nous sommes venus pour valider les études de faisabilité de ces comités de suivi qui vont nous permettre finalement à passer à la phase finale parce que nous considérons cette phase des études de faisabilité comme étant les derniers verrous et ça nous permet finalement de pouvoir penser à ce qu'on puisse déployer le matériel qui pourront peut-être commencer d'ici là pour la phase d'exploitation du gaz méthane dans les lacs Kivu.
C'est un projet qui va s'étaler sur combien d'années?
C'est un projet qui va s'étaler sur 30 ans, hein, parce que l'exploitation du gaz, transformation de l'électricité, commercialisation, c'est sur 30 ans.
Ce ne sont pas les premières études qui ont été menées quant à l'extraction du gaz méthane dans les lacs Kivu. On a vu beaucoup d'études menées, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui prouve que cette fois-là est la bonne? On va arriver à la phase finale, celle d'extraction du gaz pour la production d'électricité.
Il y avait beaucoup de zones d'ombre que moi-même j'ai trouvées dans le dossier. Et ensemble, avec EPPM, bien entendu, nous avons travaillé pour essayer d'enlever tout ce qu'il y avait comme zone d'ombre. C'est vrai, il y a beaucoup d'études qui ont été menées, mais au moins, on avait lancé les appels d'offres. EPPM avait gagné ces marchés. Les études ne disent pas que non, si on a fait les études, ça fait que les gens peuvent se jeter directement dans les blocs. Aujourd'hui, les blocs de Goma, nous voulons que les travaux puissent commencer. Avant la fin de l'année ou tout au plus au début de l'année prochaine, nous allons lancer les appels d'offres dans le cadre des hydrocarbures, c'est-à-dire délimiter tout ce que nous avons comme bloc, et pour lancer finalement les appels d'offres. Les études sont faites, c'est vrai, mais maintenant nous voulons passer à la phase où tous les lacs Kivu, parce que beaucoup pensent que non, le bloc Goma, c'est tous les lacs Kivu. Non, le bloc Goma, il y a 4 blocs. Il y a beaucoup de sociétés qui sont intéressées, et dès qu'on va lancer les appels d'offres, eh bien, j'ai la ferme conviction que finalement, nous allons éviter les pires, parce que le gaz, c'est un danger pour nous, mais aussi une aubaine pour nous. Nous devons tout faire pour que la population puisse trouver son compte dans l'exploitation de ces gaz. Les gaz, pour nous ici, ça doit être considéré comme étant la grande société, la Gécamines du Kivu, hein. Ça va booster l'économie, non seulement du pays, et même de toutes les des provinces en général.
Oui, monsieur le ministre, il y a aussi les projets du dégazage dans le golfe de Kabuno. Où en sommes-nous aujourd'hui?
La première mission que j'avais effectuée ici, c'était pour signer l'accord entre le gouvernement congolais et la société qui devait passer finalement à la phase d'industrialisation du dégazage. Là, c'est un autre projet, parce que nous avons la concentration des gaz carboniques dans la partie du golfe de Kabuno. Or, si ça éclate demain après demain, ce sont des milliers de morts que nous allons compter ici. Aujourd'hui, le gouvernement est résolument engagé à ce qu'on passe à la phase de l'industrialisation, mais pour répondre justement à la question, tout est déjà fin prêt. Maintenant, il faut passer à la phase industrielle, c'est-à-dire commencer à dégazer. Et je crois que d'ici là, ça va se faire et la population pourra vivre sans crainte.
La population du Nord Kivu, qu'est-ce qu'elle peut attendre de l'exploitation du gaz méthane?
Déjà, nous avons un déficit terrible pour ce qui concerne d'abord l'électricité. Aujourd'hui, la ville de Goma a besoin de plus ou moins 60 mégas. Si nous parvenons à exploiter finalement ces gaz et les transformer en électricité, cette production pourra aller à plus ou moins 30 mégas. Et sur le plan économique, ça pourra, non seulement ça va créer de l'emploi, mais aussi les opérateurs économiques de tous bords, en tout cas, ils vont se retrouver et je crois que ça pourra booster l'économie ici dans la province du Nord Kivu.
Monsieur Rubens Mikindo, merci d'avoir répondu à nos questions.
Je vous en prie, merci madame.
Et ce journal est à présent terminé. Vous pouvez le réécouter sur www.radiocapi.net.